FM connecté à votre région.
Visuelle littérature, c'est façon de voir le rendez-vous culture de 9h FM présenté par Samuel. Aujourd'hui, une édition spéciale bande dessinée. Je tendrai mon micro au fondateur d'une maison d'édition indépendante créée il y a une quinzaine d'années maintenant, les éditions du Moule à Gaufres. J'ai avec moi en ligne depuis Sonone, dans les Vosges, près de Saint-Dié, un de ses fondateurs, Jean-Michel Damien. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Samuel.
Tu vas bien ? Moi ça va et toi ?
Très bien, impeccable. Il fait très beau, c'est impeccable.
Oui, il fait beau ici aussi. Alors, les éditions du Moule à Gaufres, c'est une maison d'édition associative créée en Lorraine. La signature de l'association a longtemps été des éditeurs de Lorraine, mais des auteurs de partout, c'est ça ?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a, on a fait le choix en 2009, l'année de la création de la maison d'édition, d'éditer des gens de Lorraine, mais aussi de partout. Entendu que c'était pour nous d'éditer surtout des coups de cœur. Des gens qu'on considérait qu'ils avaient du talent, mais il fallait les mettre à l'honneur. Donc on a édité des gens de Lorraine, quelques-uns, mais aussi des auteurs d'un peu partout en France, et même de l'étranger.
On pourrait ajouter des lecteurs de partout aussi, hein, puisque vous diffusez absolument partout.
Oui, absolument, des lecteurs de partout. Il faut savoir que l'aventure a commencé un peu d'une manière atypique, c'est-à-dire qu'on avait des amis qui souhaitaient éditer leurs dessins, et on sait que l'édition, c'est un travail de... une aventure de fou, quelque sorte. Et on s'est lancé dans l'édition sans savoir ce que ça pouvait donner. Donc on a commencé à chercher des auteurs sur les blogs. On a trouvé quelques-uns et on a édité un premier bouquin avec une quinzaine d'auteurs au début, un collectif, ce qui est à Paris risqué, évidemment. Mais ça a permis d'avoir une petite écurie, entre guillemets, d'auteurs intéressants, et il semble intéressant, à la fois au niveau du scénario et du graphisme.
On va parler plus largement du Moule à Gaufres après la pause musicale. Dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez la pastille Où sortir. Jean-François Lefebvre nous parlera des 40 ans de la médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Il nous invitera également à l'exposition consacrée à l'architecte Denis Froidevaux. Dans la pastille À lire, on parlera d'une BD, thème du jour oblige, Le Grand Rouge de Pierre Tissot, alias Ouzit, un jeune auteur que notre invité du jour doit bien connaître, hein, n'est-ce pas Jean-Michel ?
Parfaitement, oui.
Voilà, parce qu'il a publié chez vous.
Hein.
Voilà, voilà. Donc on en reparle après des notes Kennedy. Restez à l'écoute de 9h FM. A tout de suite Jean-Michel.
What you carry so gracefully. beside you down at the lake. I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you are.
Ces façons de voir, une émission consacrée aujourd'hui à la bande dessinée et notamment à la maison d'édition Le Moule à Gaufre. Alors Le Moule à Gaufre, ça vient bien sûr d'une insulte du capitaine Haddock, mais c'est aussi le nom donné à une grille orthogonale utilisée autrefois pour composer les images d'Épinal. C'est bien ça Jean-Michel ?
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il faut savoir que quand on a créé la maison d'édition Le Moule à Gaufre, beaucoup de gens pensaient qu'on faisait de la pâtisserie, bizarrement. Et effectivement, on a quand même quelques esthètes. Ils savent que c'est une insulte du capitaine Haddock. Donc c'est parti un peu sur ce nom qui nous semble intéressant. Et, parce que la mémorisation d'une maison d'édition, c'est important.
Il se trouve aussi qu'un moule à gaufre, c'est un objet qu'on ouvre en deux et qui délivre des saveurs sucrées. C'est la métaphore avec la BD. Absolument. Est toute trouvée là, hein, quand même.
Absolument, tout à fait ça.
Alors, vous avez fait une pause ces derniers temps, hein, c'est-à-dire que tu nous as dit avant la coupure musicale que la maison d'édition avait démarré en 2009, hein, c'est ça ? Et vous avez publié une quinzaine de titres, à chaque fois de la bande dessinée d'ailleurs, ou pas toujours ?
Oui, au début c'était que de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on est parti sur des auteurs très singuliers, donc Vosil, Bettina Eger, Lomi, Gogel, dont je pourrais parler un petit peu tout à l'heure. Donc, ce sont des auteurs qui, maintenant, pour beaucoup d'entre eux, sont dans d'autres maisons d'édition. Lomi qui est à Sarbacane, par exemple. Augel travaille chez beaucoup de petits éditeurs. Vosit, on en a parlé tout à l'heure, travaille chez Fleurus. Et beaucoup continuent la bande dessinée. Mais ça a été un moyen pour eux de démarrer l'édition et de démarrer leur travail d'auteur, en fait.
C'était l'objectif du Moule à Gaufre, hein. C'était une rampe de lancement pour des jeunes auteurs.
On s'était fixé l'objectif de découvrir des nouveaux auteurs, ce qui est une gageure parce que c'est un pari bien évidemment un peu risqué, mais on a fait des bons choix, parfois des choix un peu élitistes, mais ce sont des auteurs qui valent le coup quand même.
Vous avez fait une petite pause pendant quelques années, et puis là vous redémarrez avec exactement les mêmes ambitions, les mêmes objectifs.
Oui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tirages un peu différents. On faisait des tirages à 2000, 3000 exemplaires. Donc c'était des tirages importants sur des ouvrages cartonnés. On va plutôt aller maintenant vers des ouvrages un peu plus petits, c'est moins cher. Des nouvelles illustrées aussi, je pense qu'on va lancer des nouvelles illustrées. Et de la BD classique, bien évidemment. On commence à recevoir quelques projets. Bon, évidemment, la sélection va être un peu draconienne, parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui dessinent très bien. Ce qui manque beaucoup dans la bande dessinée, ce sont de bons scénaristes. Pour beaucoup de gens, la bande dessinée, c'est avant tout une histoire, mais il y a aussi des gens qui pensent que la bande dessinée, c'est que du dessin. Ce qui est une grossière erreur, parce que c'est une bonne histoire, c'est ce qui accroche le lecteur. Et on est vraiment en manque de scénarios. Et alors, avis au lecteur et avis au scénariste éventuel, on est en recherche de bons scénaristes.
Donc vous recevez régulièrement des planches, des manuscrits avec des demandes de publication.
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un collectif d'artistes, dans plusieurs collectifs d'artistes, donc on rencontre beaucoup d'artistes sur Nancy, sur d'autres régions aussi, près de chez nous aussi. Donc ce sont des gens qui viennent de Strasbourg, des écoles de dessin de Strasbourg ou d'ailleurs, qui présentent par leur travail. Donc il y a des choses très bonnes, graphiquement il y a des choses très bonnes, plus de retard, mais il y a plusieurs paramètres dont on doit tenir compte avant d'éditer. Quoi.
Il y a quand même une sorte de tombe ou la gaufre, hein, si on regarde les titres qui sont parus, et j'en ai certains devant moi là, Vacadab, En Chien, Le Concierge, Truc, c'est quand même des livres à l'humour un petit peu corrosif, on va dire, c'est un petit peu le dénominateur commun de cette, oui, première, cette première fournée de livres.
C'est-à-dire que c'était considéré un peu comme une édition un peu intellectuelle. C'est-à-dire que Betty Niger, quand elle a fait le Maître Marguerite, qui parle de l'histoire de Bulgakov, l'écrivain russe, c'est une adaptation. Ce sont des ouvrages qui avaient une ambition un peu intellectuelle. Vous dites, on était très intéressé par son travail parce que graphiquement, il y avait une recherche très intéressante. Le MIG aussi, parce qu'il y avait un scénario qui... D'ailleurs, le reste, il a prouvé un scénario qui tenait la route. Ce sont des ouvrages qui avaient une ambition, disons. Une ambition. Et qui ont bien marché pour la plupart, en tout cas.
Parmi les auteurs que vous avez publiés, tu viens de citer Lomig et Wuzit. Donc Wuzit, Pierre Tissot, on l'aura en ligne tout à l'heure, puisqu'il va parler de son dernier livre, Le Grand Rouge. Il a publié chez vous Divin Mortel en 2011. Et Lomig avait publié Vacadab. C'était une histoire assez acide quand même sur les réalités du marché.
Oui, absolument. Alors Lomig s'est orienté maintenant vers des ouvrages plus écolos. Il a publié Dans la forêt ou... un bouquin sur les solitudes aussi, beaucoup sur les forêts américaines. Donc ce sont des ouvrages qui étaient un peu acides, qui étaient un peu corrosifs, effectivement. Mais ce qui était très bénéfique pour nous, c'est qu'on a eu un beau succès avec chacun de ces ouvrages, autant vous dites que Lomig. Ça prouve bien que le public est réceptif à la qualité. Donc je pense que quand on a des auteurs de qualité, un certain nombre de qualité, on rencontre le public forcément. Et après, il y a le bouche-à-oreille qui joue beaucoup, bien évidemment. Et un succès, c'est aussi beaucoup bouche-à-oreille. Donc, pour nous, ça a bien marché à cause de ça. Après, on peut parler un peu des diffuseurs qui, parfois, ne font pas toujours leur travail comme ils devraient le faire. Mais c'est vrai que l'impact des salons a toujours été très important pour nous. La rencontre des auteurs avec le public a été aussi quelque chose de déterminant pour beaucoup d'ouvrages.
Le Moule à Gaufres, c'est aussi Annick Lilienthal. C'est peut-être le moment de lui adresser un petit clin d'œil. Est-ce que tu peux nous parler de son
Absolument,
action?
Absolument, Annick. On a monté la maison d'édition tous les deux ensemble. Annick a fait beaucoup de travail de recherche d'auteurs. Il faut quand même signaler qu'elle a un œil particulier, un œil qui laisse rarement passer le talent. Donc ça a été très important, son œil est toujours aussi vif, et toujours aussi important dans le choix des auteurs, puisqu'elle a ce qu'on dirait un sixième sens. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça me fait penser un peu à ces auteurs qui fréquentaient les galeries parisiennes au moment de Picasso et qui découvrent Picasso, comme Canzeler par exemple. Comme Canzeler qui se promène à Montmartre, on lui parle de Picasso, il va le voir, et il sent que ce jeune peintre a quelque chose. Annick est un peu comme ça.
C'est une artiste, Annick.
Oui, c'est une artiste aussi, donc elle fait de la peinture, de la musique, etc. Et c'est vrai que l'édition nous a un peu éloigné de tout ça, on y revient petit à petit, mais je crois que dans l'édition, comme dans le métier de galerie, ce qui est important, c'est d'avoir un œil, comme dans le métier d'éditeur, c'est-à-dire savoir qui a un potentiel, qui a un univers singulier qui peut être développé. Et donc, je dirais que l'œil ou le flair, c'est quelque chose d'important.
On peut parler maintenant du Petit Illustré, hein, qui était un premier album sorti en 2009 et qui était un collectif. C'était en quelque sorte le collectif. Alors, vous laissiez 6 à 8 pages à chaque auteur. Il y avait une dizaine d'auteurs. Et puis, l'année suivante, vous offriez la possibilité à chacun de ces auteurs de s'exprimer dans un album complet, c'est ça ?
Oui, absolument, c'était tout à fait le deal qui était passé au départ. C'est très intéressant parce qu'on a eu un panel d'auteurs très différents, des auteurs qui avaient un univers très très séparé les uns des autres, mais très riches en même temps. Et je crois que ça a été pour beaucoup d'entre eux, ce que je disais tout à l'heure, un moyen de se lancer et de prendre confiance en eux. Parce que c'est important pour un auteur, ça on ne le dit pas assez, mais ce sont des gens qui ont beaucoup de sensibilité, beaucoup de doutes parfois sur leur travail, etc. Et je crois que donner la possibilité à des jeunes auteurs de s'ouvrir au monde, de présenter leur travail, c'est un peu un travail de missionnaire, c'est un peu ce qu'on s'était proposé au départ. Ça a été pour beaucoup d'auteurs un encouragement, et effectivement, beaucoup d'entre eux, comme je disais tout à l'heure, ont continué dans l'édition, et le pied à l'étrier, c'est pas toujours évident, mais je crois que ce qu'on a fait là, c'était important pour eux, et pour nous aussi, c'était important, et c'était surtout des très belles rencontres. Des rencontres de gens très riches, au niveau du talent, au niveau de la personnalité, vraiment une très très belle rencontre.
Je confirme qu'Annick et toi avez eu le nez fin, parce que si on regarde le sommaire de ce Petit Illustré, il y a parmi les auteurs sélectionnés des auteurs devenus quand même importants dans le monde de la BD. On a parlé de Wozit et de Lomig, mais il y a aussi Bettina Eiger. Enfin, vous avez édité des auteurs qui ont parfois même remporté plusieurs prix dans des festivals de bande dessinée.
Oui, absolument. Alors, le collectif, au départ, était soumis à un petit deal plutôt sympathique. On proposait à des auteurs de 6 planches, et à la suite de quoi, on publiait leur bouquin l'année suivante. C'est ce qui était prévu. Donc, on a eu dans ces auteurs des gens intéressants. Wozit, qui on a parlé tout à l'heure, qui travaille chez Fleurus maintenant, Lomig, qui travaille chez Sarbacane. On a eu des gens comme Bettina Eiger, qui ont fait des bouquins très intéressants, Eugène, qui fait beaucoup d'humour, Tifa Barr, etc. On a aussi deux auteurs que j'ai beaucoup aimés, qui s'appellent Sandro Coco, un Belge, qui publie un ouvrage très particulier, qui s'appelle De l'autre côté, et une auteure que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Marie Sœur Ducan, qui expose actuellement en Belgique, qui fait des ouvrages fantastiques, un univers très onirique, un graphisme superbe, des ouvrages, des auteurs qui se dégagent un peu partout, comme on disait au départ, et qui ont développé leur univers ensuite dans d'autres maisons d'édition et dans d'autres albums. Donc c'était plutôt encourageant, et c'était un choix qui a été plutôt récompensé, puisque ces auteurs ont pu se développer par la suite.
On va parler des livres et des auteurs en particulier juste après Métronomie, Love is not an obstacle. On parle aujourd'hui des éditions du Moule à Gaufres avec l'un de ses fondateurs au téléphone, Jean-Michel Damien. Jean-Michel, quels sont les titres à venir dans la maison d'édition, dans l'édition, et est-ce qu'il y a de nouvelles collections en préparation ?
Alors on a une nouvelle collection qui serait sans doute orientée vers le fantastique. Alors on est en projet sur un ouvrage un peu audacieux qui s'appelle L'île du Dr Moreau, qui est bien connu, de H.G. Wells. Une adaptation qui devrait être réalisée prochainement. Donc on a bien avancé sur le projet. On a un autre projet qui s'appelle Superman fait un AVC, un truc très très drôle, qui devrait sortir très bientôt aussi. On a sur le feu des philosophes grecs, c'est-à-dire que les people de l'Antiquité. Et puis j'attends quelques projets différents, des projets à la fois de romans illustrés, enfin de nouvelles illustrées, qui devrait donner aussi quelque chose de particulier. On a aussi un projet d'album de dessin d'humour qui devrait apparaître aussi prochainement. Donc on attend des nouveautés, on a des choses en préparation. on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais je pense qu'il y a des bonnes choses qui doivent arriver très bientôt.
Et puis, tu évites soigneusement de parler du tien, d'album, mais il y a un livre sur l'art contemporain, quand même, qui est à paraître.
Oui, ça, c'est ce qu'on appelle une private joke. C'était un peu pour se moquer du snobisme de l'art contemporain, donc c'est un petit bouquin d'humour, sans prétention, et qui a très très bien marché. On avait sorti à 1500 exemplaires, il est parti très très vite. Et donc là aussi, c'est des droits qu'on a beaucoup vendus en salon, parce que le salon, bon, les salons, il y en a un peu moins, mais actuellement, et c'est vrai que l'impact des salons a été trop important pour nous, et je pense que le contact avec le public aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé, qu'on a renouvelé, si tant est qu'il y a encore beaucoup de salons en France qui existent et auxquels on puisse participer, quoi.
Vous avez présenté aussi vos albums à Angoulême, si je me souviens bien.
Absolument, on a fait Angoulême tous les ans. Angoulême, c'est une foire très intéressante parce qu'on rencontre non seulement d'autres éditeurs qui sont des amis pour beaucoup d'entre eux, on rencontre aussi des auteurs très intéressants. Je me souviens particulièrement d'un auteur suédois qui s'appelait Klingerland, qui avait fait une bande dessinée sur Edvard Munch, le peintre. Je crois que c'était chez Graphique et aux éditions Graphique. Et on a rencontré donc des auteurs très intéressants. Brad Evans aussi, qui a fait Panthère, qui est un ouvrage très atypique, mais graphiquement très très beau. Et donc c'était l'occasion de rencontrer à la fois des amis éditeurs et de découvrir aussi des nouveaux auteurs.
Sur des festivals comme celui-ci, on voit assez régulièrement des auteurs qui viennent démarcher des éditeurs. Ça vous est arrivé de repérer des jeunes talents à Angoulême, par exemple ?
Oui, mais c'est le MIC, on parlait de jeunes talents, le MIC, ça s'est passé comme ça. Le MIC est arrivé un jour sur le stand, et il a dit, je vais faire un peu de bande dessinée, est-ce que vous voulez voir mon travail ? Effectivement, on a regardé son travail, on a été très impressionnés par sa qualité de graphiste, sa qualité de scénario aussi. Et le MIC, c'est exactement ça s'est passé comme ça. À côté de ça, il y a des choses très drôles. Il est arrivé que des auteurs viennent avec leur carton en dessin, un peu comme dans la bande dessinée de Gottlieb, les Dingo Dossier, avec un carton chargé de dessin. Donc ils sont à la pêche au compliment, bien évidemment. Et je me souviens d'un auteur à qui j'ai eu le malheur de dire qu'il y avait un de ses dessins qui était bien dessiné. En l'occurrence, c'était un petit bosquet ou un petit arbre qui était bien dessiné dans une planche, qui n'était pas terrible d'ailleurs, mais bon. Et le fait de leur faire un compliment à ce jeune homme, il est revenu 5 fois sur le stand, pensant que c'était la porte ouverte pour l'édition complète de ses œuvres, quoi. Donc c'était très drôle. Ça crée des situations parfois burlesques, mais très amusantes. Et en dehors de ça, effectivement, on a rencontré quelques auteurs intéressants qu'on n'a pas tous publiés. Mais je pense que c'est une occasion de rencontrer beaucoup de gens intéressants, en tout cas.
Vous vous êtes assez souvent autorisé à sortir aussi du format BD franco-belge avec des strips en 4 cases ou des pleines pages de cases. Vous avez publié des romans c'est graphiques et puis des...
La question du format, c'est important parce qu'effectivement, il y a un archétype dans l'édition, c'est qu'on doit pratiquement être sur le format A4, format classique de la bande dessinée. Et dès que vous sortez du format... c'est parfois un peu compliqué. Il faudrait aussi parler d'une chose qui, pour un éditeur indépendant, est importante, c'est-à-dire que l'édition, c'est la visibilité. Il n'y a pas d'édition sans visibilité, à la fois celle de l'album, celle de la couverture, mais visibilité chez le libraire. Alors, on est confronté, nous, petites maisons d'édition, à l'omniprésence des grosses maisons d'édition qui prennent un peu tout le marché. Et si on n'a pas des libraires qui jouent le jeu, qui mettent en avant nos albums, enfin quelques-uns de nos albums, c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est un travail collectif à la fois de l'éditeur et aussi des libraires qui sont une pièce importante de l'édition. Et heureusement, on a quelques éditeurs militants qui font bien leur travail et qui savent mettre en avant des ouvrages intéressants et qui ne sont pas simplement les serviteurs des grands groupes.
Tu parles de visibilité. La visibilité, c'est important quand on est éditeur. La distribution, c'est important aussi. Comment vous assurez que l'ensemble des bacs sont correctement alimentés avec les livres du Moulagouf ?
C'est une vraie question, parce qu'effectivement, le diffuseur, c'est quelqu'un d'important aussi. C'est-à-dire que si vous avez un bon diffuseur, effectivement, vos ouvrages seront bien défendus déjà, parce qu'il faut que les ouvrages soient défendus déjà. Et ensuite, il sera bien placé. Je crois que dans les diffuseurs, c'est un peu comme dans les cordonniers. Il y en a des très bons, d'autres qui font bien leur travail, d'autres qui font moins bien leur travail. Mais je crois que l'aspect engagé, l'engagement des diffuseurs est important. C'est-à-dire que avoir quelqu'un avec qui on puisse parler et qui puisse avoir un impact important sur les libraires. Mais bon, effectivement, le choix du diffuseur, c'est quelque chose de très très important. Alors, on ne peut pas compter que sur le diffuseur. Je pense que maintenant, il faut aller sur des voies un peu parallèles. J'ai parlé des salons. Il y a aussi la vente en ligne qui existe maintenant. Mais il faut aussi avoir un travail où on mouille sa chemise soi-même en tant qu'éditeur. Parce que compter que sur le diffuseur, c'est pas toujours pareil. C'est un peu risqué, à mon sens, en tout cas.
D'ailleurs, vous privilégiez la rencontre directe. Hein, c'est toujours plus efficace pour établir un lien de confiance avec les auteurs et même parfois avec les lecteurs. Vous êtes assez peu présent sur les réseaux sociaux, mais très présent sur les salons, par exemple.
Ah oui, les salons, pour nous, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de petits salons qui existent dans toute la France, c'est un peu pareil. Et on est encore un pays où la culture a une importance, une grande importance. Donc, heureusement, on ne fait pas que des grands salons, mais il y a aussi des petits salons qui sont très intéressants, sur lesquels on peut faire des belles ventes. Je sais qu'en Alsace, par exemple, il y a beaucoup de petits salons qui marchent très très bien. Donc, c'était sur des rencontres directes, comme je disais. Et je pense qu'il faut envisager pour l'avenir, pour l'édition, en tout cas, de partir sur des ventes en ligne. Je pense que c'est une solution qui peut être envisagée, en tout cas pour beaucoup d'éditions. Et c'est quelque chose qui va se développer, à mon sens, de plus en plus.
On espère vous voir bientôt dans la région. Dans le Nivernais, on a quand même quelques salons, quelques festivals de bande dessinée aussi.
Donc, le Nivernais est une très très jolie région. On connaît un peu, c'est une très jolie région.
Eh bien, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des nouvelles des auteurs qui volent par leurs propres ailes depuis qu'ils sont passés par le moule à gaufres? Est-ce qu'ils vous écrivent
très peu de nouvelles, c'est que Bettina Eger retourne en Autriche. Je sais qu'elle retourne en Autriche. De temps en temps, on a un petit coup de fil de temps en temps. Mais non, on n'a pas vraiment de nouvelles directes.
On va donner les références des quelques livres dont on a parlé sur la page Facebook de l'émission. Comment on se procure par ailleurs les livres du moule à gaufres?
Alors on va mettre en place une adresse sur laquelle vous pourrez commander en ligne les bouquins. C'est ce qui sera plus simple et ce sera fait très prochainement en tout cas.
En attendant, il y a toujours les plateformes de vente officielle, enfin,
oui, absolument.
Hautement commerciale. Mais d'ailleurs, en parlant de cet aspect commercial, qu'est-ce qui distingue une maison d'édition indépendante d'une autre? Quelle définition vous donnez à cet aspect indépendant?
Une maison d'édition indépendante, donc c'est une maison d'édition qui va faire des choix très audacieux, parfois un peu risqués. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse faire. C'est une maison qui a une politique un peu élitiste, etc. Mais c'est avant tout une maison d'édition qui va prendre un peu des chemins de traverse, qui va dire, moi je vais mettre en avant ce genre d'auteur en prenant tous les risques qu'on imagine. Donc indépendant, on est indépendant, on est un peu trimiteur du marché. Et disons que, pour être simple, une maison d'édition classique tient compte du marché, une maison indépendante tient moins compte du marché. C'est-à-dire que ce qui compte pour nous, c'est de découvrir, ce qu'on revient au mot important, de découvrir des auteurs. Il est évident que si on découvre un auteur comme Franz Kafka, si c'était le cas, on le publierait. Mais étant entendu que publier Franz Kafka, comme ça a été fait à l'époque, c'est un pari risqué. Et c'est un peu la politique de la maison d'édition indépendante. C'est prendre des risques et essayer de mettre en avant des choses nouvelles, en tout cas. En fait, c'est un boulot un peu de découvreur. Indépendant, c'est plutôt une maison d'édition indépendante, c'est une maison d'édition qui découvre des choses, qui fait son métier d'éditeur comme on devrait le faire.
Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Reste en ligne, hein, parce que dans un instant, on va entendre deux pastilles. La première pastille, Où sortir, Jean-François Lefébure nous parlera des 40 ans de la médiathèque Jean Jaurès et de l'exposition Denis Froidevaux. Et tout de suite après, on écoutera Wuzit, Pierre Tissot de son vrai nom, qui nous parlera de son dernier livre, Le Grand Rouge, Pierre Tissot, qui est passé par le moule à gaufres. On se retrouve juste après Chiesa Hideaway. On reparle tout de suite après, d'accord?
Ok.
Thank you.
Qui va nous parler d'un événement cher à sa structure.
Bonjour Samuel. Alors je voulais évoquer avec toi les 40 ans de la médiathèque Jean Jaurès. Dans le courant du mois d'octobre, le samedi 14 octobre, nous allons inaugurer et présenter une exposition menée en partenariat avec le Conseil d'architecture et d'urbanisme de la Nièvre et l'Association des architectes de la Nièvre autour du travail de rénovation et de restauration du centre culturel Jean Jaurès mené par l'architecte Denis Froidevaux. Ce dernier est décédé en 2021 et il a été entendu avec ces deux institutions de rendre hommage hommage au travail architectural de cette personnalité neversoise, hein, importante pour la ville, et puis également de mettre en avant évidemment les 40 ans de la médiathèque Jean Jaurès, de rappeler le positionnement de la médiathèque dans ce bâtiment, les transformations qui ont été menées au sein de ce bâtiment, la transformation des espaces. Et pour ce faire, nous allons mettre en place, à partir du 13 octobre, une exposition qui se veut ludique, conceptuelle, rappelant les éléments architecturaux voulus par Denis Froidevaux, afin de mettre en avant ce bâtiment historique, mais également ces éléments contemporains qui ont intégré cet ensemble important pour la vie culturelle, hein, désormais. Et pour ce faire, l'équipe du CAUE, le Conseil d'architecture donc, d'urbanisme de la Nièvre, va nous proposer des éléments visuels, des panneaux explicatifs, des panneaux directionnels, des points d'observation sur l'ensemble du centre culturel et de la médiathèque, de façon à rappeler aux usagers et aux personnes qui fréquentent les lieux ou aux simples visiteurs tout le travail mené par l'architecte, son intention dans ce travail de rénovation. Et c'est des éléments importants de façon aussi à remettre en avant l'œuvre d'un architecte, sa perception vis-à-vis d'un bâtiment qui avait également une histoire précédemment. C'est également aussi la volonté de mettre en avant le travail de Denis Froidevaux qui a œuvré au sein de la ville de Nevers sur plusieurs monuments et plusieurs bâtiments importants. On peut citer notamment l'école d'ingénieurs automobiles située à proximité sur la commune de Coulanges et Nevers et de Nevers. On a également le collège des Loges dans le quartier des Manteaux à Nevers, hein, qui fête également ses 20 ans cette année, puisque Denis Froidevaux a travaillé au sein d'un cabinet avec Patrice Varnan et Pascal Demorège, également architecte, sur un travail de rénovation du Collège des Loges. Donc tous ces ensembles, tout ce travail architectural, cette œuvre importante pour la ville, qui sera présentée à partir du 13 octobre au sein de la médiathèque, jusqu'au 10 novembre. Et donc la journée du 14 octobre va être une journée de commémoration par rapport à ce travail, une journée festive aussi, hein, l'idée étant d'associer les usagers, les familles à venir fêter les 40 ans de la médiathèque. On proposera au cours de cette journée des ateliers créatifs, ludiques, on aura également des stands de maquillage et de création de sculptures en ballon pour les enfants, un atelier photo-caricature également de du design graphiste, illustrateur Cyril Berger, qui sera présent toute la journée, alors qui proposera un atelier original, un atelier photo-caricature, et l'idée étant d'associer les usagers, les bibliothécaires, anciens bibliothécaires, tous les gens qui aiment ce bâtiment, qui l'ont fréquenté durant leur scolarité, leur enfance, qui ont un souvenir lié à un espace, à un événement, une animation, une rencontre, et à partir de ce souvenir, de créer une œuvre graphique, et d'intégrer ce souvenir dans ce travail d'illustration. Et chacun pourra repartir avec le travail réalisé par Cyril Berger. Et puis s'ils le sont d'accord, on le diffusera au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux avec quelques énigmes évoquant leurs souvenirs liés à la médiathèque Jean Jaurès. Pour compléter cette exposition, on aura également une exposition de la photographe Monique Thuriot-Prémery, qui a fréquenté la médiathèque pendant plus de également 40 ans et qui, tout au long de ces années, a mené tout un travail photographique. Elle a assisté aux différentes manifestations, événements de la médiathèque. Et donc, elle nous présentera une sélection de 30 à 40 clichés photographiques, mettant en avant donc tous les événements. Évidemment, l'exposition n'est pas exhaustive, hein. Il aurait fallu des centaines de mètres linéaires de façon à présenter l'ensemble des clichés évoquant toutes les animations de la médiathèque pendant ces 40 années. Mais l'idée étant, c'est de montrer une diversité. Il n'y aura pas forcément un ordre chronologique, mais c'est de rappeler aussi des espaces qui ont évolué en fonction aussi des usages et des besoins de la population. Voilà, donc un rendez-vous qui se veut festif, mais également culturel et important pour l'histoire de la ville de Nevers.
Merci Jean-François. Comme d'habitude, on reprend toutes les informations données à l'antenne et on note le rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Façon de voir. Le pseudo, c'est fdv.neversfm, même pseudo sur Instagram. Tout de suite, on écoute Flying Teapot, The Light. Restez sur Nevers FM. The sunrise. De votre pastille à lire sur Nevers FM. On parle aujourd'hui d'une bande dessinée, tiens, Le Grand Rouge de Wozit. Pierre Tissot de son vrai nom, il est avec moi au bout du fil. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Tu m'entends bien?
Oui, très bien.
Alors, tu m'appelles depuis Toulouse, hein, c'est ça?
C'est bien ça, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler rapidement du Grand Rouge? De quoi ça parle?
Le Grand Rouge, c'est un récit d'aventure. Qui mêle un peu cap et épée et fantastique. On va suivre le héros qui s'appelle Yvan Barnave dans deux temporalités qui sont divisées en chapitres et on va suivre un peu sa vie et sa rencontre avec le Grand Rouge.
Le Grand Rouge, c'est ton troisième, quatrième album exactement ?
Alors je ne saurais pas très bien dire. En matière de bande dessinée, je crois que c'est le quatrième. Et sinon, en livre tel quel, ça doit être le 10 ou 12e, je pense.
D'accord. On ne compte pas les albums collectifs, hein, parce que là, tu as participé quand même à beaucoup.
Non, je parle des albums jeunesse. Je fais beaucoup d'illustrations pour la jeunesse.
Alors, l'émission du jour est consacrée à cette maison d'édition qui s'appelle Le Moule à Gaufres, que tu connais bien. Le Moule à Gaufres,
oui.
Tu y as publié quelques petites pages. Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est ça. Alors, j'ai publié au départ dans le premier album de la maison d'édition qui était un collectif. Et je crois qu'il y avait 6 ou 8 pages. Et ensuite, j'ai publié un album en 2010, octobre 2010, me semble-t-il, qui s'appelait Divin Mortel.
Divin Mortel, très beau, très bel album que j'ai devant moi là, sur la table, où il est question de divinités qui rencontrent des petites difficultés à mener leur vie, hein, c'est ça?
Oui, j'ai voulu, à travers cet album, c'était la volonté c'était de reprendre des mythes, alors pas toujours des mythes très connus, Et certains aussi, comme par exemple, il y a le Minotaure, le mythe du Minotaure. Et je reprenais ces mythes de façon humoristique, avec un trait assez humour et coloré.
Alors Pierre Tissot, tu es un auteur trentenaire, hein, on peut le dire. Tu as démarré donc dans les années... Ouais, presque, mais voilà, tu es encore dans la marge de la trentaine, je crois. Et tu as démarré donc dans les années 2010, hein, par là, la bande dessinée. Et aujourd'hui, tu en vis.
J'ai commencé à être publié en 2010, effectivement, avant mes premières publications... rémunéré. Et aujourd'hui, j'en vis. je dégage un salaire qui me permet de payer mon loyer. Ouais.
Oui, bah, donc c'est ce qu'on appelle en vivre, enfin, du moins en partie.
Oui, oui, oui.
Et est-ce que tu as des projets sur le feu actuellement, des titres à venir, à sortir ?
Alors oui, je travaille en ce moment pour Casterman. Pour la BD documentaire à destination de la jeunesse. Donc là, c'est le thème, c'est j'avais déjà sorti Agir pour la planète sur l'écologie, et là le prochain à venir, c'est sur l'espace, en partenariat du coup avec la cité de l'espace. Et ensuite, j'ai un autre gros projet qui est signé chez Sarbacane depuis des années maintenant, sur lequel je suis un peu en retard, sur la conquête du Mexique.
Sur tes albums, tu fais à la fois le dessin, la couleur et le scénario ?
Alors, la plupart du temps, oui. Et à de rares exceptions, il m'est arrivé de travailler notamment avec Joseph Safiedine, qui est un scénariste. Et sinon, quand je fais du travail, par exemple, pour Casterman, sur les bouquins que j'ai précédemment cités, là, je suis en relation avec soit un journaliste, soit une personne spécialisée dans le domaine. Un peu comme pour la revue Topo, où on fonctionne un peu sur le même principe. J'ai travaillé avec eux en matière de bande dessinée, et on travaille avec des journalistes. Donc là, c'est un travail...
Sur Le Grand Rouge, il y a eu un travail de documentation également, ou tout est sorti de ton imagination ?
Pour Le Grand Rouge, non, il y a peu eu de travail de documentation. Je m'étais un peu inspiré à l'époque pour créer les formes de nature un peu fantastique d'un livre que j'avais sur la classification des espèces, qui permettait de voir les formes d'espèces animales qu'on a peu l'habitude de voir, hein. Souvent celles sous-marines ou microscopiques. Et sinon, non, au niveau de l'histoire et de la construction, c'est beaucoup d'influence, mais pas de documentation propre.
Le Grand Rouge est sorti chez Dupuis en août 2023, donc il est tout frais, tout chaud, sorti des presses. Allez vite le découvrir. Mention spéciale pour la couleur. Moi, j'ai toujours trouvé dans tes albums, Pierre, que la couleur était particulièrement bien gérée. Non que le dessin ne soit pas intéressant, mais mention spéciale pour la couleur quand même. Tu as une sensibilité de coloriste.
Bah, c'est très gentil. Je ne me définirais pas pour autant coloriste. Je suis un peu en... Enfin, j'adore la mise en couleur et je suis un peu embêté dans un sens parce que j'ai une colo qui est assez simple, mais c'est vrai que j'ai une palette assez éclatante.
Ouais, et l'harmonie est...
À ce niveau-là, ouais.
Merci Pierre pour d'avoir répondu à nos questions et puis on souhaite un beau succès au livre. Il part bien là ? Tu as déjà des retours sur les ventes ?
Non, j'ai pas de retour sur les ventes. J'en aurai d'ici quelques mois, je pense. J'ai juste des retours presse qui sont pour l'instant plutôt favorables.
Très bien, précipitez-vous pour lire Le Grand Rouge. On met de toute façon toutes les références du livre sur le site, sur la page Facebook et la page Instagram de la radio fvdv.9rfm. C'était Façon de voir sur 9RFM, le rendez-vous culture de votre antenne. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci à mes invités Jean-Michel Damien qui était en ligne. Donc Jean-Michel Damien, fondateur, co-fondateur du Moule à Gaufres. Jean-Michel, quelques coups de cœur des BD que tu as trouvés dernièrement en librairie et
alors,
qui
moi,
t'ont fait...
Alors moi j'ai une BD sur laquelle j'ai fait un coup de cœur. C'est un auteur qui s'appelle Anawa, Kazuichi Anawa, un japonais, qui a fait 3 bouquins chez Ego Comics, qui s'appelle Avant la prison, dans la prison et après la prison. C'est un ouvrage graphique remarquable, c'est un auteur qu'il faut absolument mettre en avant.
Le Moulin Gaufre recherche toujours de nouveaux talents. Comment on fait pour vous démarcher et vous proposer des planches à publier?
Eh bien, écoutez, le plus simple, c'est de nous envoyer vos projets sur une boîte mail, c'est le moulagouffre88@gmail.com. Donc, on reçoit les projets, on les étudie, et effectivement, si éventuellement il y a des choses qui nous semblent intéressantes, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà.
Je redonne l'adresse email moulagouffre88, moule au singulier, gaufre au pluriel, il y a un seul moule et plusieurs gaufres, 88@gmail.com.
Absolument. Écoutez, ça a été un plaisir en tout cas de parler avec vous. On espère bien que vous passez une heure dès que ce sera possible et vous présenter un peu les nouveaux auteurs qu'on aura trouvés. Voilà.
Merci Jean-Michel. Merci également à Jean-François Lefebure et à Ouzit qui sont intervenus à notre antenne pendant l'émission. N'oubliez pas d'aller souffler les 40 bougies de la médiathèque le samedi 14 octobre et de visiter l'exposition consacrée à Denis Froidevaux. Vous retrouverez les références complètes du livre Le Grand Rouge ainsi que quelques autres sur les pages Facebook et Instagram de l'émission. Le compte c'est fdv.9rfm, même compte pour les deux réseaux. Abonnez-vous pour ne rien rater de notre actu. Cette émission a été préparée avec un coup de main d'Esteban, merci à lui. Vous pouvez la podcaster ou la réécouter quasiment à l'infini depuis le site 9r.fm. Vous cliquez sur l'onglet Replay puis Façon de voir. Je vous dis à très bientôt. Restez sur 9r.fm.